au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission qui sera consacrée aujourd'hui à la princesse Jeanne Bibesco. Pour en parler avec nous, Christine Audot. Christine Audot, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vous qui venez de signer ces mémoires étonnants, passionnants, ces mémoires apocryphes, rédigées à la première personne, parues au Cerf il y a quelques semaines, et consacrées à la princesse Jeanne Bibesco. Alors un personnage étonnant, haut en couleur, et la première chose qu'on a envie de vous demander, c'est comment vous avez découvert ce sujet ?
Écoutez, moi je suis très intéressée par les parcours féminins. J'aime voir comment les femmes qui sont confrontées à des problèmes réagissent. Et en général, au 19e et au début du 20e siècle, on découvre des personnalités hors du commun. Donc parmi ces personnalités que j'avais sélectionnées, il y avait donc la princesse Jeanne Bibesco, dont je savais uniquement qu'elle avait été révérende mère du Carmel d'Alger, qu'elle avait rencontré Émile Combes et qu'elle était sortie du Carmel. Cette sortie du Carmel avec le Carmel est un ordre extrêmement rigoureux,
très sévère, oui,
très
un enfouissement définitif.
Oui, enfin comme une religieuse me l'a défini elle-même, une carmélite, elle m'a dit c'est le don de soi sans retour possible. Donc un ordre très sévère. Comment se faisait-il que cette femme qui s'était engagée jeune dans cet ordre puisse décider de partir et comment en était-elle sortie? C'est toutes ces interrogations que j'ai voulu résoudre et je suis partie un petit peu à l'aventure, un peu comme un détective, pour savoir quelle était la femme qui se cachait derrière ce nom, ce patronyme de princesse Jeanne Bibesco.
Alors justement, le nom de Bibesco, c'est un nom qui est un peu connu en France. On connaît les frères Bibesco, qui étaient les amis, les correspondants de Marcel Proust. On connaît surtout la cousine de Jeanne Bibesco. Alors, vous connaissez mieux la généalogie de cette famille que moi. Si je me trompe dans les liens de famille, vous me direz.
Non, c'est bon.
Mais il y a également donc Marthe Bibesco, qui était une romancière de l'entre-deux-guerres, à qui on doit des tas de romans, dont certains très, très amusants, charmants, très imités leur repas, comme Catherine Paris, notamment. Et là, vous nous présentez un membre de cette famille qu'on ne connaissait pas du tout. Jeanne Bibesco, est-ce que vous pouvez peut-être nous resituer un peu les différents degrés de parenté de cette famille franco-roumaine ?
Bien sûr. Dans la famille Bibesco, il y avait les générations supérieures, il y avait quelques sœurs, il y avait des frères. Et donc, Jeanne avait des cousines prestigieuses. Elle avait d'abord Anna de Noailles, qui était née Anna de Brancovent, donc qui était la fille du frère aîné de son propre père, de Nicolas. Ensuite, il y avait Nicolas qui a eu 6 filles. Malheureusement, la dernière est morte très jeune, donc on parle plus des 5 sœurs Bibesco, qui ressemblaient un petit peu aux sœurs Mitford, qui étaient assez imprévisibles et très fantasques. Et ensuite, il y avait un autre frère, Georges, qui s'est marié et qui a eu un fils qui s'appelait Georges Valentin. Et c'est ce Georges Valentin qui a épousé Marthe Laovary, qui est devenue donc par mariage Marthe Bibesco. Voilà. Et ensuite, un autre frère qui a eu les 2 fameux Bibesco, les amis de Proust, Antoine et... son autre frère.
Je me souviens pas du nom du second, mais alors c'est étonnant, c'était une famille. Alors d'ailleurs, on voyage beaucoup en lisant vos mémoires apocryphes. On passe en Roumanie, en Valachie, on revient à Paris, on part à Alger, on revient parfois en Roumanie. Et on a affaire à une famille extrêmement francophile qui choisit sous le Second Empire visiblement de basculer directement, définitivement dans le camp français. Et ouais. C'est une famille très importante de Roumanie. C'est la vieille noblesse fanariote, qui descend avec les paléologues. De ces vieilles familles de Byzance. Cette Jeanne Bibesco, avant d'entrer à l'âge de 21 ans au Carmel, elle a conscience d'appartenir quand même à une très vieille famille.
Ah, mais disons-le vraiment, Jeanne a une conscience de classe. Elle s'estime un peu au-dessus du commun des mortels. Son grand-père donc était Hospodar de Valachie, ce qui veut dire prince régnant. Voilà. Bon, avec la révolution de 48, il va être obligé, il va y avoir un attentat contre lui, donc le régime va complètement s'effondrer.
Il refuse la couronne, en fait.
Le grand-père de Jeanne, qui était donc prince régnant, il y a eu donc un attentat et le régime à ce moment-là s'effondre, Et donc, les Bibesco, qui étaient très francophiles, la famille va partir pour la France. D'ailleurs, le grand-père avait envoyé ses fils étudier en France. Donc, vraiment, la France est un partenaire extrêmement important pour cette famille, qui va maintenant, après avoir brillé en Roumanie, briller en France. Ceci étant, la famille va garder des intérêts en Roumanie et le père de Jeanne, Nicolas, se rend fréquemment en Roumanie. D'ailleurs, il va essayer de monter une industrie, malheureusement, qui ne va pas très bien marcher. Qui finit mal. Mais donc, les liens ne sont pas totalement, peut-être un tout petit peu distendus, mais pas du tout rompus. Et c'est une famille, comme beaucoup de ces familles aristocratiques européennes, qui voyagent beaucoup. On est à tu et à toi avec toutes les noblesses européennes. Et on voyage énormément. Donc, Jeanne, petite fille, s'est beaucoup déplacée avec ses sœurs et ça ne pose aucun problème. Elle parle beaucoup de langues. Les parents ont voulu que les filles et leurs filles soient bien élevées, reçoivent une éducation de bonne qualité. Donc, elles sont tout à fait, de ce point de vue-là, armées et elles peuvent vraiment évoluer dans beaucoup de milieux sans beaucoup de problèmes.
Dans un pari passionnant, qui est le pari du Second Empire. Enfin, oui. Et alors, on est un peu surpris. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille de bonne famille, de bonne naissance, à l'âge de 21 ans, à décider de renoncer complètement au monde et d'entrer dans les ordres ?
Écoutez, ça, c'est la grande interrogation de Jeanne, à laquelle elle n'a jamais répondu. Elle a dit « mon histoire est indicible ». Au sens littéral du mot « indicible ». Jeanne avait, ceci étant, des aptitudes à la méditation. Sa mère était extrêmement croyante, à la limite de la bigoterie. Et elle avait décelé chez sa fille des aptitudes au recueillement. Donc très jeune, Jeanne a été familière de la religion catholique. Et je pense qu'elle a jeûné assez jeune. Enfin bon, elle a très vite... Elle a des éléments qui laissent à penser que peut-être elle pourrait avoir un destin religieux. Ceci étant, son père, qui l'aimait infiniment et qui la voyait vivre depuis longtemps, ne trouvait pas chez elle ces éléments qu'elle était sûre d'avoir.
Il est même très hostile à l'entrée au carmel.
Il est tout à fait hostile. Il pense que sa fille est beaucoup trop, a une personnalité beaucoup trop... je dirais pas éclatante, mais elle est
exubérante
pour rentrer. Elle a un tempérament de feu et il pense, à juste titre, que ça sera difficile pour elle de se conformer à la règle de toute congrégation religieuse, de toute communauté religieuse. Mais Jeanne va vouloir absolument rentrer dans la vie religieuse. Elle va voir un passage chez les visitantines de Reims, dans la congrégation, communauté dans laquelle elle ne se plaît absolument pas. Elle dit qu'elle veut rentrer au Carmel, qu'elle veut l'expiation. C'est un mot qu'elle répète dans ses lettres de jeunesse. Pour quelle raison veut-elle l'expiation ? Elle ne s'explique pas. D'ailleurs, Jeanne ne s'explique jamais. Elle fait et elle ne dit pas pourquoi elle le fait. Ça la regarde, elle et l'Éternel, puisque c'est la façon dont elle appelle
Dieu. On est dans un rapport direct avec Dieu.
Avec Dieu, elle dit d'ailleurs très nettement, l'Éternel est mon unique confident. Donc, c'est très très facile de dire ça, mais nous, pauvres biographes, nous n'avons pas beaucoup de clés pour répondre. Enfin, je n'ai aucune clé pour répondre très précisément à votre question.
Alors la pauvre, elle a effectivement une fois chevillée au corps, mais les débuts, vous le disiez, sont difficiles. Il y a le passage chez les visitandines, mais même au Carmel, c'est très compliqué. Au Carmel à Paris, puis au Carmel à Vienne à un moment. Finalement, les débuts sont terribles pour elle. Elle est malade physiquement, on se demande si elle ne fait pas une dépression nerveuse.
Oui, elle a des débuts extrêmement difficiles, alors que tout semble lui sourire quand elle rentre dans son premier Carmel de l'avenue de Messine. Le supérieur hiérarchique est tout à fait ravi de voir entrer cette jeune femme. La révérende mère trouve en Jeanne une compagne intelligente, très scrupuleuse et respectueuse de la règle carmélitaine. Et malheureusement, les choses vont mal se passer et assez vite. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai. Elle va tomber malade et assez longtemps et très très profondément parce qu'on va croire que elle va mourir. Donc on lui administre les saints sacrements. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que son père, qui ne voulait absolument pas qu'elle poursuive dans sa voie, promet à Dieu que si elle s'en sort, il la laissera suivre ce chemin religieux.
Alors manifestement, il est écouté, ce papa, puisque le soleil s'éclaircit, enfin le ciel s'éclaircit, le soleil se met à briller, et elle va finalement fonder le Carmel d'Alger.
Alors après, donc elle va rentrer dans deux Carmels successifs à Paris. Elle va donc passer très rapidement au Carmel de Vienne, et ensuite elle va pouvoir fonder ce fameux Carmel d'Alger, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un Carmel dit provisoire à Bab El Oued, qui est un quartier assez populaire d'Alger.
La banlieue d'Alger, oui.
Voilà. Et qui est un Carmel dans un état absolument effroyable. Jeanne, il ne faut pas l'oublier, dispose d'une fortune considérable. Son père va lui donner sa dot à ce moment-là. Il s'agit de 600 000 francs or, ce qui représente une véritable fortune. Et avec cette fortune, Jeanne, sous la protection du cardinal de la Lévigerie, va pouvoir fonder son Carmel, donc utiliser sa fortune à l'édification d'un, je crois, un des plus beaux Carmels de Méditerranée.
Alors, vous venez de dire deux choses importantes. Effectivement, elle fonde le Carmel, mais notamment avec sa propre fortune. On y reviendra parce que ça ne sera pas sans conséquence ensuite. Et surtout, elle arrive donc dans un diocèse, le diocèse d'Alger, qui est dirigé à l'époque par une des plus brillantes personnalités de l'Église catholique de l'époque, qui est le cardinal Lavigerie. C'est l'homme du toast d'Alger, c'est celui qui a favorisé le ralliement entre l'Église catholique et la République française. C'était loin d'être acquis. On était en pleine Troisième République. Déjà, on a les prémices de la querelle religieuse. Et alors tous les deux, la princesse Bibesco, qui devient mère bénie de Jésus, c'est ça ?
Exactement.
Et le cardinal Lavigerie vont parfaitement s'entendre.
Ah, ils s'entendent très bien. Je pense que pour le cardinal Lavigerie, l'arrivée de Jeanne Bibesco est une bénédiction. Il avait besoin pour son diocèse de personnalités fortes. Jeanne en est une. Elle est connue de toute l'aristocratie européenne. C'est important pour lui. Elle a beaucoup d'argent. C'est très important pour lui. Elle sait très bien parler, elle sait très bien, elle s'exposait des dossiers, elle est brillante. C'est une personnalité qui va être favorable pour lui, en tout cas, pour ce qu'il veut faire de son diocèse, c'est-à-dire un des premiers diocèses du monde. Il a une véritable ambition. Et Jeanne sert ses ambitions. Il est très proche de Léon XIII. Enfin, on est dans une période courte, mais juste avant ce qui va, enfin, tout l'anticléricalisme, en tout cas, qui va poindre en France. L'Église catholique est à ce moment-là vraiment au maximum de sa force, et avec des personnalités fortes comme celle de Lavigerie et bien sûr du pape en poste à l'époque.
Et, oui.
Et Jeanne sert les intérêts de l'Église à ce moment-là.
Et puis alors, malheureusement, les nuages reviennent, le cardinal Lavigerie vieillit, et puis surtout, la querelle anti-religieuse prend plus d'ampleur en France. Il y a cette loi de juillet 1901, le 1er juillet 1901, qui met en péril les congrégations religieuses.
Bien sûr, la loi d'association donne la liberté à toutes les associations, à l'exception des associations d'étrangers et les associations religieuses. Et pour les associations religieuses, dans les 6 mois de promulgation de la loi, c'est-à-dire dès le 1er juillet 1901, il faut que les associations religieuses fassent une demande auprès soit des chambres, soit du Sénat, soit de la Chambre des députés, soit du Sénat. Et généralement, en tout cas à cette période-là, les demandes vont toutes être refusées. Donc, le monde congréganiste est en péril. Jeanne Bibesco pense que, enfin, Mère bénie de Jésus, pense qu'en étant à Alger, la loi peut-être ne va pas s'appliquer immédiatement. Elle s'applique. Elle reçoit d'ailleurs l'archevêché reçoit à ce moment-là, c'est Monseigneur Houri qui est archevêque d'Alger, reçoit un mot du ministre de l'Intérieur lui-même, disant que cette loi est applicable immédiatement. En France, bien sûr, mais en Algérie
comme dans
également.
Les colonies, oui.
Exactement. Donc, Jeanne va déposer, enfin, Mère bénie de Jésus va déposer une demande au mois de septembre. Ensuite, le cardinal Lavigerie, qui continue à craindre pour ses communautés et particulièrement pour le Carmel, va se rendre à Paris. À cette époque, c'est le fameux petit père, le petit père Combes, qui est le président du Conseil. Il est reçu, il est écouté favorablement. Et en rentrant, Monseigneur Houri pense que la plus disposée, la plus armée pour défendre son Carmel, c'est Jeanne Bibesco. Il lui dit « Vous parlez bien, vous défendez bien, vous n'avez peur de rien. Allez défendre votre communauté. »
Alors là, c'était extraordinaire parce qu'elle y va. Elle va rencontrer le diable, finalement. Elle va rencontrer Émile Combes à Paris.
Oui, elle part à Paris. Elle part pour Paris, pardon, avec quelqu'un du diocèse. Et elle part dans son grand habit de révérende mère. elle n'a peur de rien, elle sait qu'elle va être écoutée, elle le pense, et elle va rencontrer donc Émile Combes, et se passe l'incroyable, ces deux êtres que tout oppose, vont éprouver l'un pour l'autre une sorte d'amitié, une sorte d'affection très forte. Ils se sentent bien ensemble, ils se comprennent. Et d'ailleurs, cette phrase que je trouve formidable, elle dit « Monsieur le Président, j'étais venu pour vous séduire et c'est moi qui pars conquise. »
Voilà, très beau passage. Mais...
Et lui dit « Princesse, vous m'avez vaincue. » Il l'appelle jamais mère, toujours princesse. Et d'ailleurs, elle signe ses lettres quand elle s'adresse à Combes. « Mère bénie de Jésus, née princesse Bibesco. » Elle n'oublie pas, avec Émile Combes, que certes, elle est révérente mère du Carmel d'Alger, mais qu'elle est aussi princesse.
Alors, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, Christine Audot, avant de retrouver Jeanne Bibesco, et on parlera un peu plus de cette amitié indéfectible qui l'unit à Émile Combes.
Vous écoutez Canal Académie.
Alors nous retrouvons la princesse Jeanne Bibesco et son biographe Christine Audot qui vient de publier aux éditions du Cerf La princesse Jeanne Bibesco, des mémoires apocryphes passionnants écrits à la première personne. Et nous partons pour Alger et nous retrouvons la princesse Jeanne Bibesco bien disposée, enfin toute disposée à sauver son Carmel malgré la querelle antireligieuse en France. Alors vous nous parliez un petit peu d'Émile Combes et de cette amitié indéfectible qui est née entre Jeanne Bibesco, mère bénie de Jésus, et le président du Conseil. Cette amitié va durer jusqu'à la mort d'Émile Combes, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Dès le jour où elle rencontre Émile Combes, c'est-à-dire en mai 1903, jusqu'à son décès, Jeanne va entretenir des liens assez forts avec Émile Combes, qu'elle prénomme Juste, parce qu'elle trouve que c'est un homme juste, et avec sa famille aussi, parce qu'on a de la correspondance de Jeanne avec Madame Combes. Puis après ça, Combes va perdre son épouse, et donc elle va correspondre uniquement avec lui. Je pense que ces deux êtres se retrouvaient autour du spirituel.
Il faut peut-être préciser justement le passé d'Émile Combes, oui, que le public ignore peut-être. Alors, Émile Combes, vous nous le présentez de manière très originale, vous nous le rendez sympathique, moi je l'ai découvert. Il faut peut-être revenir sur son passé et ses origines d'abord.
Alors, Émile Combes venait d'une famille pauvre et son oncle avait décelé chez ce garçon une grande intelligence et pensait que pour le préserver d'un dénuement total, ce serait bien qu'il rentre dans les ordres. Donc il va rentrer au séminaire. Ça se passe assez bien jusqu'au moment où les supérieurs trouvent que cet homme doute trop et donc il ne va pas être appelé aux vœux mineurs. Donc il va rentrer, il va devenir professeur. Bon, le retour à la vie civile va être un petit peu long, un petit peu douloureux, mais il est très au fait de tout ce qui constitue l'enseignement catholique, l'enseignement d'un séminariste.
Il a une culture religieuse très forte.
Il a une culture religieuse très forte. Et donc, cet homme qui a douté un petit peu comme Renan a pu douter aussi, et qui était très cartésien, ne peut rester dans l'Église catholique. Et je pense que ses supérieurs hiérarchiques ont eu raison, d'ailleurs, de ne pas l'appeler aux vœux mineurs. Et c'est un homme qui connaît bien l'Église de l'intérieur et qui, en même temps... continue à mener la politique anticléricale qui avait été initiée quand même par son prédécesseur, puisque la loi de 1901, ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Et il va la poursuivre, puisque c'est lui qui va mettre en œuvre la loi de 1905, c'est-à-dire la loi de séparation des Églises et de l'État. Donc ces deux êtres se retrouvent, se comprennent, puisqu'ils ont un passé, entre guillemets, commun, et... Jeanne va être, je pense... D'abord, Jeanne est une femme de pouvoir. Donc, elle approche le pouvoir de très près, puisque c'est l'homme le plus puissant de France. Et cela, je pense, la séduit infiniment. Et en même temps, elle trouve chez cet homme, alors ça, pourquoi est-ce que Combes va lui plaire plus que cela? Je ne sais pas.
Parce que
c'est lui, parce que c'est elle.
Vous m'arrêtez si je vais trop loin, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de flirt ou de béguin.
Enfin, il y a quelque chose du domaine.
C'est très fort.
D'une affection très, très sentimentale, un petit peu. Les lettres de Jeanne sont très douces à l'égard d'Émile Combes. Et les lettres de Juste, puisqu'elle l'appelle Juste, sont aussi très douces vis-à-vis de Jeanne. Ceci étant, Émile Combes mène la politique qu'il doit mener, et je pense que Jeanne, lorsqu'elle veut l'infléchir sur diverses choses, notamment lorsqu'ils parlent ensemble de cette fameuse loi des Églises et de l'État, Jeanne trouve qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, et qu'une séparation est pour elle quelque chose de terrible. Émile Combes l'écoute, mais il ne tiendra absolument pas compte de ses conseils. Il continue à mener sa politique.
Alors, elle a triomphé finalement d'Émile Combes, mais elle sera beaucoup moins chanceuse avec le successeur de Monseigneur La Végerie, et en 1911, c'est la catastrophe.
Oui, ça se passe pas bien avant. Dès que Monseigneur Houry, donc qui est en poste à Alger, à l'archevêché, à partir de 1897 jusqu'en 1905, va présenter sa démission, et le Vatican va l'autoriser à présenter sa démission en lui demandant simplement de rester en poste tant qu'ils ne trouveront pas un successeur. Il trouve un successeur en la personne de Monseigneur Combes, qui est l'homonyme d'Émile Combes, mais qui n'a rien à voir bien sûr avec lui, qui est à ce moment-là archevêque de Carthage. Cet homme n'est pas du tout de la même trempe des autres archevêques. Et surtout, il y a un évêque auxiliaire qui s'appelle Monseigneur Picmal, qui alors va être très opposé à Jeanne Bibesco, ne va pas du tout apprécier le genre de femme qu'elle est, la manière dont elle mène son Carmel. Jeanne le mène un peu à son idée, en chef de bande, s'affranchissant quelquefois de la règle carmélitaine. Et je pense que elle est intelligente, elle essaie de séduire cet homme, mais elle n'y parvient pas du tout. Il n'est pas du tout séduit par cette femme, qu'il trouve trop présente, trop personnelle.
Oui, la compréhension est totale. En fait.
Oui, c'est une incompréhension absolue, et qui va mener au fur et à mesure à la fermeture du Carmel, puisqu'une enquête va être diligentée en 1910 et qui s'achève par la fermeture du Carmel. Le 25 octobre 1911.
Une catastrophe au plan humain, probablement pour Jeanne Bibesco.
Et pour ses sœurs, et pour les carmélites.
Oui,
bien sûr.
Bien sûr, on disperse les religieuses. Enfin, on est au début du XXe siècle. Enfin, on discute, on parle autour d'elle. C'est quelque chose de très difficile. Alors, elle est réduite à l'état laïque. Mm. Elle redevient la princesse Jeanne Bibesco et elle revient à Paris. Elle s'ouvre alors à elle une autre vie.
Exactement. Et moi, ce qui m'a extraordinairement surpris, j'ai pensé que Jeanne avait un ressort fou. Elle rentre, elle a 47 ans, dans le monde parisien qui est assez féroce, surtout.
Et puis
qui n'est plus celui qu'elle a connu, mais elle a quand même conservé des liens avec le monde, puisqu'elle avait une correspondance assez nourrie avec des membres de sa famille. Elle se tient au courant de tout, elle sait un petit peu ce qui se passe dans le monde.
Oui, elle a une vie intellectuelle très riche. Hein.
Oui, exactement. Et donc, elle a 47 ans, et Combes l'avait pourtant prévenu, lui disant que le retour à l'état laïque n'était pas chose facile. Et elle s'accommode extrêmement bien. Donc, elle ne va pas avoir beaucoup de mal à redevenir la princesse Bibesco. Mais peut-être l'était-elle demeurée en étant révérende mère du Carmel d'Alger, c'est possible.
Alors, on ne va pas dévoiler les dernières années de la princesse Jeanne Bibesco. Peut-être simplement dire que c'est pas forcément toujours très facile pour elle, et que la fin de sa vie a sans doute été moins allègre que les débuts, ou que même la joie mystique qu'elle a pu ressentir dans son Carmel.
Je pense que, au point de vue du spirituel, je pense que Jeanne a eu un retour à la foi extrêmement fort, et peut-être plus profond que ce qu'elle avait expérimenté au Carmel. Son retour à la foi est humble et je dois dire assez extrêmement touchant. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif. Au point de vue de sa vie intellectuelle, elle rencontre quand même, elle est très proche du Parti radical, ses amis de la rue de Valois, comme elle les appelle. Elle est quand même conférencière, donc elle croise énormément de gens.
Le cardinal Baudrillard,
qui devient un de ses proches et qui est un homme remarquablement brillant.
Qui la protège discrètement d'ailleurs.
Qui la protège, qui va beaucoup l'aider, qui va aussi favoriser ce retour à la foi. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi positif. C'est matériellement que la vie devient très difficile parce que avec le fameux franc Poincaré, la fortune de Jeanne, elle a réussi à vendre dans des conditions assez extraordinaires son Carmel. Va être amputée d'une façon absolument énorme.
Oui, on va euthanasier tous les rentiers.
Donc, exactement. Ouais. Donc ça, c'est très difficile. Alors c'est vrai, ça c'est peut-être le côté qui est le plus douloureux. Mais Jeanne s'en accommode aussi.
Elle a fait des choix.
Elle a fait des choix. Elle assume ses choix, même si c'est difficile. Elle ne se plaint jamais et elle reste digne.
Alors Christine Audot, on va inviter nos auditeurs à découvrir ce qu'a pu être le quotidien de la princesse Jeanne Bibesco dans les dernières années de sa vie. Il y a aussi des rebondissements incroyables au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On laisse nos auditeurs découvrir tout ça et on va les inviter à acheter votre ouvrage, La princesse Jeanne Bibesco, des mémoires apocryphes que vous avez rédigées à la première personne. Ces mémoires sont sous-titrées Une femme, le Carmel, la République, tout est dit. C'est publié par le Cerf et il y a 350 pages. Christine Audot, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.